30 minutes d'infos choisies
chaque vendredi sur Radio Galère 88.4.
Le monde tel qu'on le connaissait s'écroule. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle.
Toutes et à tous, bienvenue sur Radio Galère, c'est les infos choisies. On a commencé avec une petite minute de retard, mais bon, voilà, une minute, c'est ça va, c'est correct.
C'était pour vous donner envie.
Voilà, exactement. Et puis en plus, on vous a passé du son juste avant, c'était Riam MC et puis ensuite Billy Broloch. Les infos choisies, c'est tous les vendredis de 12h30 à 13h, 30 minutes d'infos qu'on choisit pour vous, parce que toutes les infos ne sont pas bonnes à dire et il y en a certaines qui nous tapent un peu sur le système. Alors on fait des sélections des choses qui nous touchent et on vous en fait part. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site radiogalère.org, www.radiogalère.org. On met tous les podcasts en ligne, donc n'hésitez pas à aller écouter les précédentes sessions, puisque les infos d'actualité sont parfois bonnes à réentendre. Et puis ben voilà, si vous voulez nous envoyer des mails, c'est info au pluriel vendredi@gmail.com. Et on a reçu des petites infos des copines qui sont loin de Marseille, c'est ça ?
Voilà, aujourd'hui, vendredi 25 février 2022, on a reçu un mot et un son d'une camarade qui est sur la route. Je vais lire son texte. « Bonjour les infos, je suis sur les routes depuis 3 semaines pour la tournée d'un spectacle. M'informer et me tenir à jour de l'actualité est assez périlleux et je dois avouer que les quelques nouvelles que j'arrive à choper me laissent sans voix. J'ai d'abord mis quelques jours à réaliser que les JO étaient les JO d'hiver et que ça se passait en Chine. En ayant un doute sur la situation sanitaire et les conséquences sur les populations. Puis le reste me pose des tas de questions. La situation des Ouïghours enfermés dans les camps, le fait qu'une bulle sanitaire ait été mise en place, la question du boycott de ces JO. Je ne comprends pas non plus la surprise du monde face au bombardement en Ukraine, parce que même si je ne suis pas accrochée à mon poste radio 24 heures sur 24, c'était prévisible, non ? Et puis, la situation au Sahel, où la France n'est pas vraiment claire depuis des années et nous baigne dans le flou, encore un peu plus, depuis quelques semaines. Et je n'aborde même pas la situation des tôles et des zones d'attente, ou les nouvelles que des camarades me donnent au sujet des frontières. J'avoue que même si dans ma petite vie d'artiste tout va bien, je suis sidérée par la situation géopolitique. Sans parler de notre contexte de campagne présidentielle qui donne la nausée. Bonnes infos.
Face à cette situation de guerre, nous devons en tirer toutes les conclusions. La France continuera à jouer pleinement son rôle de réassurance des alliés de l'OTAN en envoyant en Estonie un nouveau contingent au sein de la présence avancée renforcée, en anticipant sa participation à la police du ciel balte dès le mois de mars et en accélérant aussi son déploiement en Roumanie.
Président, ministre, collègues, c'est un moment bien étrange que celui où nous allons discuter de la situation dans le Sahel, où tout est déjà décidé, sans que nous ayons l'échange normal que pouvait attendre un Parlement dans une démocratie, venant de son Premier ministre, pour nous dire si, dans la préparation de l'événement inacceptable et insupportable qu'a été la reconnaissance des deux républiques du Donbass par la République russe d'une part, puis son entrée militaire sur le terrain, si dans la phase qui a précédé cet événement, le chef de l'État russe a manipulé notre président de la République en lui faisant croire des choses qu'il n'était pas, mais qu'il se faisait un devoir de nous dire, ou bien si nous n'avons été coupables que de naïveté.
Eh oui.
Et voilà, la démarche
voilà.
De la flamme, ça y est.
C'est fait, avec deux jeunes athlètes de 21 ans qui embrassent le cœur des Jeux. Cette fois, c'est fait, les Jeux Olympiques de la 24e Olympiade sont officiellement ouverts à Pékin.
Les autorités chinoises qui ont donc choisi de confier cette mission très symbolique à une athlète ouïghour, skieuse de fond. C'est quoi ça comme geste? Un bras d'honneur à la communauté internationale?
C'est surtout un bras d'honneur aux millions de Ouïghours qui sont dans les camps, qui sont réduits en esclavage, aux femmes qui sont stérilisées ou violées collectivement. C'est un bras d'honneur à tous ces gens qui ont été déportés dans des camps simplement parce qu'ils étaient nés Ouïghours. Et quand on me dit qu'il ne faut pas mélanger le sport et la politique, c'est exactement le sens de ce type de cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Quand un régime autoritaire organise les Jeux Olympiques, eh bien, il l'utilise pour montrer sa puissance et pour imposer son message au monde qui a les yeux rivés sur le stade. Mais alors, le stade est plein de lumière et par contre, les camps, eux, on n'a pas le droit d'y accéder. Les camps restent dans l'ombre et pour moi, c'est simple en fait. On ne fait pas la fête à l'ombre de camps de concentration.
Et pour la deuxième journée de suite, eh bien, les habitants de la capitale Kiev se sont réveillés avec des sirènes. Il était 6h environ ce matin quand ces sirènes ont retenti. C'est bien la capitale de l'Ukraine, Kiev, qui est attaquée par la Russie ce matin. Au deuxième jour donc de l'offensive lancée par Vladimir Poutine avec des bombardements depuis le milieu de la nuit, Romain Houg.
Oui, vers 3h30 ce matin, plusieurs fortes explosions résonnent, puis le ciel de Kiev s'enflamme. La capitale donc sous le feu des missiles russes depuis le milieu de la nuit. Il y aurait des blessés entre 3 et 8 selon les autorités municipales. Kiev plus que jamais menacé. Les chars russes seraient désormais tout proches et prennent part à des combats face aux troupes ukrainiennes. Des troupes héroïques, salue Zelensky dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Le président ukrainien qui ajoute que la Russie devra parler à l'Ukraine tôt ou tard pour mettre fin au combat.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi 30.
Les infos choisies, vendredi,
les midi 30. Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Le 21 février, la Cour constitutionnelle colombienne dépénalise l'avortement jusqu'à 24 semaines de grossesse. Le 23 février, le Parlement français vote l'allongement des délais pour avorter, enfin, jusqu'à 14 semaines de grossesse. Et là, on doit se réjouir. Et pourtant, ça va la changer la vie des femmes, qui, quand elles apprennent qu'elles sont enceintes de 12 semaines et 2 jours, elles doivent aller jusqu'en Espagne ou en Hollande pour pouvoir avorter et lâcher au passage de leur poche entre 800 et 2000 euros. Alors pour rappel, quand la loi a été votée en 1975, le délai était fixé à 10 semaines. En 2001, les députés poussent jusqu'à 12 et en 2022 jusqu'à 14, soit à peu de choses près 2 semaines tous les 20 ans. On ne peut pas dire que ce soit l'avancée du siècle non plus, hein. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a tant de mal à accepter qu'une femme ne veuille pas d'une grossesse alors qu'elle l'apprend tardivement? On n'a peut-être pas tous la même échelle de temporalité. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tardivement? Enfin, quand tu apprends un truc auquel tu t'attendais pas et que c'était pas prévu, alors que ça fait plus de 3 mois que ça existe, mais que tu t'en étais pas rendu compte, on peut pas dire que tu l'as appris tardivement. Non, tu viens de l'apprendre. Ça n'a rien de tardif. Et c'est toi hein, qui te le prends en pleine poire et qui va devoir te démerder avec l'angoisse de te poser la question de ce qui t'arrive et après de savoir comment tu vas pouvoir soit gérer le fait de la mener à terme, soit te prendre la tête à trouver un endroit où tu vas pouvoir avoir accès à l'IVG. En espérant que le seul centre de planification de ton bled ne se trouve pas dans la maternité de l'hôpital où toutes tes voisines enceintes jusqu'aux yeux vont accoucher. Donc non, on vient de l'apprendre, hein. Ça n'a rien de tardif, bordel, hein. Et ça n'a rien de funky du tout. Mais ça peut aussi bien se passer. Si t'es au clair avec ça, que tu peux te déplacer facilement, que tu as des ressources, que ça se passe bien dans ta vie. Mais voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Alors peut-être qu'il faut rappeler à tous ceux qui se permettent de gérer ce qui se passe dans notre utérus, bah que c'est justement de notre utérus. Et qu'il ne nous viendrait même pas à l'idée, à nous, de donner notre avis sur comment les mecs gèrent leur prostate. Bref, à ce rythme-là, peut-être que dans 100 ans, on rattrape la Colombie.
Merci.
piangere, ciao, ciao. Se vuoi scrivimi, ciao, ciao. Ti amo, credimi, ciao, ciao. Vedrai che io ritornerò. L'hai voluto appena appena conosciuta, già sei stata insieme a te, sei innamorata. In un aereo porto lui che parte e sai che è già finita. Era lui l'uomo dei sogni che sognavi, era lui la tenerezza che cercavi. Un abbraccio sai che è l'ultimo, è difficile incontrarsi.
Maria Nazionale, ciao ciao, de la pop napolitaine.
Magnifique.
Donc de Naples, on remonte à Vintimille, où c'est un peu moins drôle. On voulait vous faire découvrir un documentaire sonore réalisé par Charlotte Rouault, qui s'appelle Corps étrangers, qu'elle a réalisé récemment dans la région de Vintimille, dans toute la zone, la vallée de la Roya un peu aussi. Et qui retrace un peu toute la répression qui a lieu, les parcours de personnes en exil qui essaient de traverser, les solidarités qui se nouent, la visibilisation qui se fait par rapport à justement toute cette répression et la mort qui surgit parfois à cette frontière. Voilà, on va vous faire écouter un petit extrait que ensuite, si ça vous intéresse, vous pourrez le retrouver sur le site de Faido Sonore, dont je vous donnerai les précisions après.
Me and my friend I want to go to France, not a problem, not anything. Study, college, live. What's the problem? I had 2 days arrest. Monaco, miss, arrest. Wow. الشرطة الفرنسية قد تتعسف في منعنا وقد تمنعنا مرارا وتكرارا وهذا ليس عدلا ليس عدلا.
La police française a répété encore et encore des abus envers ceux-ci en notre nom et ce n'est pas juste, pas juste.
Understand?
Yes.
Yeah. إنه طريق خطر. خطر لأبعاد الحدود لكن سنحاول نحن أنا أعتقد أن بعض الأشخاص قد كلفهم حياتهم في هذا الطريق إنه طريق صعب وجبال ومنحدرات ولدينا شخص من أصدقائي قد كسرت يده وخلعت من مكانها أثر سقوطه ماذا عسانا نفعل نحن مجبرون على ذلك لا يمكن البقاء هنا
Dangereuse à l'extrême, mais nous allons essayer. Que pouvons-nous faire? Nous sommes obligés de. Nous ne pouvons pas rester ici. Je suis obligée de traverser. Je suis obligée de suivre la durée du destin. Je ne peux pas y laisser ma famille. Je ne peux pas rester ici en Italie. J'attends de le voir. Justice a un obstacle.
Anderson.
Ouais.
Oh, bro.
We are sorry.
I'm so sorry to speak with you about everything, but thank you very much.
Thank you. Good luck.
Good luck.
A été tué par le système frontalier franco-italien près de Vintimille. Un jeune homme de 17 ans, originaire du Bangladesh, a été électrocuté sur un train. Ce décès est une nouvelle conséquence d'une frontière invisible, ouverte pour les Européens et les touristes, mais fermée et mortelle pour les personnes sans papier. Depuis la fin de l'été dernier, à Vintimille, plus de 10 personnes ont perdu la vie dans des dynamiques similaires. Environ 6 d'entre elles sont mortes sur les rails des trains en direction de la France, ou ont été électrocutés en essayant de monter sur le toit. D'autres ont disparu sans laisser de traces dans les montagnes. Tous ces décès sont la conséquence de la fermeture des frontières et de l'indifférence d'une ville hostile comme Vintimille. Une ville qui ne donne pas accès à des toilettes, à un toit, à la possibilité de passer du temps de manière et dans des endroits dignes. Pour cette dernière mort à Vintimille, comme pour toutes les autres, aux frontières internes et externes de l'UE, les institutions et ce système politico-économique sont responsables. Notre tâche est de continuer à dénoncer fermement et à lutter quotidiennement contre les politiques qui tuent et pour l'autodétermination de tous.
C'était donc un extrait du documentaire sonore « Corps étrangers » de Charlotte Rouault qu'on peut retrouver sur le site de Faido Sonore, F-A-I-D-O, sonore, S-O-N-O-R-E.net ou sur SoundCloud, donc « Corps étrangers ».
Et en tout, il dure combien ce
documentaire ? Il dure 51 minutes.
Okay.
Voilà, c'est sans voix off, c'est que des témoignages de personnes qui vivent ou qui passent dans cette zone de Vintimille.
Faidosonore.net. Et le nom du docu ?
« Corps étrangers ».
Vous êtes toujours sur Radio Galère 88.4 FM.
Et c'est le moment de la rubrique santé. J'avais envie de partager avec vous une expérience. Finalement, les infos choisies, c'est aussi ça. Des surprises pour égayer notre vendredi après-midi. Alors, tout a commencé avec cette expérience désagréable. Un des effets possibles et courants du Covid, j'ai perdu l'odorat. C'est pas très original, ça touche 80% des gens qui ont eu le Covid. Et je vous le confirme, c'est très désagréable. Je m'étais jamais rendu compte à quel point les odeurs ça comptait. En fait, c'est toujours pareil. Quand on a quelque chose qu'on a toujours connu, eh ben on se rend pas compte de combien c'est important. C'est quand ça disparaît que ça devient plus compliqué. C'est le cas pour l'allocation chômage, les réductions à la SNCF, l'indépendance des associations de sauvetage en mer par rapport au ministère de l'Intérieur, la retraite à 60 ans, bref, pour tout un tas de trucs. Le problème pour l'odorat, c'est que c'est pas hyper facile de s'organiser collectivement pour le récupérer. J'ai quand même eu envie de discuter avec des camarades dans la même situation et on a essayé de comprendre ce qui se passait dans nos corps. On s'est demandé comment le virus s'y prenait pour nous empêcher de sentir les odeurs. Alors, on a trouvé tout un tas de trucs, il y a plein de recherches en cours, il y a plein de conclusions qui sont encore des hypothèses sur les raisons de la perte d'odorat. Ce qu'on sait, c'est que le coronavirus y pénètre dans une partie super en arrière du nez, là où on a notre sensibilité aux odeurs. C'est une zone qui est tapissée de muqueuse, et dans cette zone, le virus, il attaque des cellules qu'on appelle des cellules de soutien. C'est pas hyper rassurant, ok, parce que moi perso, j'aime bien l'idée d'avoir des cellules de soutien dans mon nez. Et alors c'est quoi le rôle de ces cellules de soutien? Elles protègent les neurones olfactives, c'est-à-dire les neurones qui font le lien entre l'odeur et le cerveau. C'est les neurones qui permettent que, quand tu sens les molécules de café, ton cerveau il dit « Ah, c'est du café ». Voilà, c'est les câbles des odeurs en fait. Et les cellules de soutien, elles forment une barrière pour protéger les neurones olfactives. Elles protègent les câbles. Et quand elles sont attaquées, ça crée une désorganisation de tout le système olfactif. Ça fragilise les câbles, et du coup les câbles ne fonctionnent plus. Ça conduit à la perte de la détection des odeurs. La question qui vient après, c'est comment faire du soutien à ces cellules de soutien pour retrouver l'odorat? Alors, là aussi il y a tout un tas de trucs qui existent. La réponse la plus courante, c'est entraîner son odorat et son cerveau. Il y a tout un tas de programmes pour sentir des huiles essentielles, des savons, jouer au loto des odeurs, dire à voix haute tout ce qu'on mange pour recréer les connexions dans le cerveau. On trouve aussi le conseil de manger beaucoup de fruits et légumes qui sont riches en antioxydants, le WD-40 des cellules de soutien olfactif en quelque sorte. Mais tout ça, ça prend du temps, beaucoup de temps. Et puis, la semaine dernière, je reçois ce message d'une pote avec qui on a fait les recherches sur les programmes de récupération des odorats. Et là, elle me raconte que tout d'un coup, elle a réussi à sentir de nouveau. La question qui vous brûle les lèvres, c'est comment a-t-elle fait? Et c'est très excitant. Elle est allée se promener dans la montagne. Il y avait un énorme vent, hyper froid. Et elle s'est promenée pendant plusieurs heures, jusqu'à ce que son visage soit un peu violet, vous voyez, sous l'effet du vent. Et en descendant, elle a senti les bouses de vaches. Et puis les arbres, et puis la nourriture, et puis bref, ces cellules de soutien étaient de nouveau opérationnelles. Évidemment, j'ai essayé la même technique. Alors le lendemain, je suis partie me balader dans les calanques. Ça tombait bien, c'était journée de grand vent froid. Et devinez quoi, en descendant, j'ai senti le sel de la mer, et puis en rentrant chez moi, le gingembre, les huiles essentielles, la sauce tomate périmée dans le frigo, tout ça. On comprend pas bien encore ce qui s'est passé. On n'a rien trouvé là-dessus sur le grand internet. Alors s'il y a des auditeuristes qui ont des explications, s'il vous plaît, contactez les infos choisies pour nous les partager. Mais en tout cas, moi, j'avais envie de raconter cette technique parce que récupérer l'odorat, c'est un peu comme récupérer le chômage. C'est la grosse joie. Et puis j'aime bien l'idée qu'on continue à essayer des choses et à inventer et à partager des bricolages inédits. On n'est pas sûr que cette technique fonctionne. Peut-être que c'est autre chose parce qu'en fait, deux personnes pour tirer des conclusions, c'est quand même pas beaucoup. Mais en tout cas, on continue toujours d'essayer.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi 30.
Les infos choisies, vendredi,
les
midi
infos
30.
Choisies, vendredi, midi 30.
Yes, vous êtes toujours à l'écoute des infos choisies. Merci pour cette chronique santé, G, si tu nous entends. Et merci à toi, merci à toutes les personnes qui ont participé. Avant de se quitter, on va se faire un petit agenda des jours à venir. À commencer par aujourd'hui, à Manifesten aura lieu une présentation d'un livre accompagnée d'une performance autour des luttes birmanes Donc voilà, c'est les éditions Héliotropisme qui présentent ce soir un livre à manifestaine, un livre fort qui sera publié en avril et qui s'appelle Printemps birman. Le livre présente 14 poètes et poétesses birmans et rohingyas et 6 photographes, tous et toutes exilés, emprisonnés ou assassinés par les militaires depuis le coup d'état de février 2021. La présentation sera suivie d'une performance de Maiko Naing, Ko Lat et Yadanar Jewel, j'espère que je prononce bien leur nom, et d'une discussion avec plusieurs personnes ayant participé au livre. Cerise sur le gâteau, il y aura également un repas birman à prix libre. Donc chouette soirée ce soir à partir de 20h à Manifestaine, 59 rue Thiers.
Demain, samedi 26 février à midi, le mouvement de la paix 13 appelle à un rassemblement de solidarité avec le peuple ukrainien pour dire stop à la guerre. La guerre n'est jamais la solution. Voilà, c'est à midi sous l'ombrière du Vieux-Port.
Ouais, c'est bon, on se demandait si on passait l'info, mais en fait, voilà, l'antimilitarisme aussi, c'est quand même pas mal. Voilà. Samedi, donc demain à 16h, rendez-vous au rond-point du Prado pour une manif antifasciste, puisque Zemmour tiendra un meeting dans la ville demain contre le fascisme et le racisme. Nous continuons à nous organiser, à nous mobiliser. Donc demain a lieu un meeting de Reconquête, le parti de Zemmour, tenu par les deux politiciens du même parti d'extrême droite, Stéphane Ravier et Gilbert Collard, à 17h au Parc Chanot. Et donc une manif, un contre-rassemblement pour montrer encore que Marseille est et restera antifasciste. Le rendez-vous est à 16h au rond-point du Prado. Il y aura une sono, un micro ouvert, la possibilité au collectif ou individu de venir prendre la parole. Soyons nombreux, nombreuses. C'est signé par Marseille antifasciste. Rendez-vous demain 16h au rond-point du Prado.
Mercredi 2 mars à 18h30 au Théâtre de l'Œuvre à Belzunce, il y aura les 10e rencontres de l'hébergement solidaire proposé par le réseau Hospitalité. Au cours de ces rencontres, les réflexions portent sur les conditions d'hébergement et d'accompagnement des personnes exilées à Marseille et à la façon de développer l'hébergement solidaire. À Marseille, entre 12 000 et 15 000 personnes vivent dans la rue chaque année, à un moment ou à un autre, alors que le dispositif d'hébergement d'urgence ou provisoire ne compte que 6 000 places et que les délais pour y accéder sont très longs. Voilà, donc ça se passe à 18h30, mercredi, au Théâtre de l'Œuvre.
Ouais, et puis on voulait finir cet agenda pour vous signaler une exposition qui se tient depuis quelques jours jusqu'au 17 mars. C'est gratos et c'est à la mairie des 1er et 7e arrondissements, 61 La Canebière. C'est une expo qui présente une quinzaine de femmes porteuses du VIH ont posé sous les feux de la rampe du Théâtre de l'Œuvre à Marseille pour une séance photo en écho avec la représentation qu'elles souhaitent donner d'elles-mêmes. Donc elles ont raconté leur expérience singulière, leur mode de contamination, l'annonce, les peurs, la maladie, les traitements, le rapport à leur corps, à leur être, à leurs proches, à la société, l'isolement, le rejet, le soutien, la force, l'entraide, tous ces trucs-là, les combats à mener, les élans, les espoirs. Donc une expo sur des femmes porteuses du VIH, c'est jusqu'au 17 mars, mairie des 1er et 7e, 61 La Canebière, c'est ouvert de 9h à midi, de 14h à 17h, et c'est gratos, et c'est un projet du réseau Santé Marseille Sud et du Théâtre de l'Œuvre.
C'est donc, on arrive à la fin de cette demi-heure d'infos choisies.
C'est incroyable.
On remercie toutes les camarades qui nous ont envoyé des mots, des sons et même plus encore.
Et de la force.
Voilà. Et on remercie la technique. C'était nous.
Et on vous remercie, vous. On se dit à vendredi prochain, midi 30.
Tous nos auditeurs RIS de nous avoir écoutés. Ouais. Patience. Et on se dit à la semaine prochaine.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.